France Culture.
C'était il y a un peu plus d'un mois. François Bayrou, alors en visite à Mayotte, territoire dévasté par le cyclone Chido, annonçait la mise en place d'une zone franche globale exemptant d'impôts toutes les entreprises pour une durée de 5 ans. Une promesse reprise le 20 janvier dernier par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls.
Nous devons sauver Mayotte, reconstruire Mayotte, puis refonder Mayotte. Le premier temps, sauver Mayotte, c'est la gestion de crise. Le deuxième temps, reconstruire Mayotte, après l'urgence, après les défis que je viens d'évoquer, s'incarne dans ce projet de loi d'urgence. Ce projet de loi est donc une réponse incontournable, mais il n'est qu'une première réponse. Viendra donc le troisième temps, refonder Mayotte avec des mesures structurelles portées par un autre texte de loi. Le Premier ministre l'a annoncé, nous allons concerter très largement dans les prochaines semaines pour avancer sur d'autres mesures législatives plus structurelles, plus de long terme. Nous vous présenterons donc dans les deux mois un second projet de loi programme de refondation de Mayotte. C'est ainsi, par exemple, que nous instituerons une zone franche globale ou que nous agirons sur la politique de la ville.
Une mesure qui fait donc partie du projet de loi d'urgence pour Mayotte qui était adopté le 22 janvier dernier par une très large majorité à l'Assemblée nationale et à l'unanimité par le Sénat hier. Une ambition derrière cette mesure, relancer une économie sinistrée. Toute la question est de savoir comment l'instauration d'une zone franche pourrait permettre justement cette relance. Présentée comme une mesure d'exception dans des circonstances elles-mêmes exceptionnelles, l'instauration de poches où la fiscalité se fait plus légère et où les contraintes commerciales se relâchent est aussi une stratégie de fond et de long terme pour se maintenir une place au sein d'un commerce mondialisé. Une stratégie qui a le vent en poupe alors que les économies, a fortiori maritimes, voient leurs horizons commerciaux s'élargir et avec eux une concurrence accrue entre nations pour attirer une activité économique alors bienvenue. De Livourne au XVIe siècle à la Chine de Xi Jinping, on retrace des siècles d'exceptions juridiques qui finissent de fait par incarner la norme. Zone franche, c'est le mot de notre dictionnaire de l'écho que nous rédigeons tous les mercredis. Et l'émission du jour a été programmée et préparée par Anouk Miliot. Elle est réalisée par Françoise Delefloc et mise en onde aujourd'hui en direct et jusqu'à 15h par Ludovic Auger. Et deux invités sont embarqués avec nous aujourd'hui. François Bost, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géographie économique et industrielle à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Vous êtes également directeur du laboratoire Habité. Vous avez dirigé l'Atlas mondial des zones franches paru aux éditions CNRS Documentation française il y a quelques années. Guillaume Calafa, vous êtes quant à vous maître de conférence en histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre junior de l'Institut universitaire de France et membre également de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. On vous doit un ouvrage intitulé « Une mer jalousée ». Contribution à l'histoire de la souveraineté Méditerranée 17e siècle. C'est paru en 2019 aux éditions du Seuil. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Alors François Bost, cette mesure qui vise justement, on le disait, à la création d'une zone franche est comprise dans le projet de loi d'urgence pour Mayotte. On le disait, elle est censée être temporaire d'une durée de 50, mais elle doit être globale. Que faut-il comprendre à travers cette mesure? Est-ce qu'il faut la traduire par le fait que plus aucune entreprise ne paiera ni taxes ni cotisations sociales sur l'ensemble du territoire mahorais?
Eh bien, écoutez, c'est ce qui semble se profiler. Alors, j'ai envie de dire que le terme de zone franche globale m'a un petit peu surpris. Parce que, ça rappelle en fait des choses qui existent déjà, par exemple les zones franches urbaines. Sauf que là, il faut voir le contexte absolument exceptionnel dans lequel s'inscrit ce projet. J'ai un peu l'impression qu'on voit dans cette proposition une solution un peu hors norme, un peu une solution de la dernière chance pour un territoire qui a été terriblement meurtri par ce cyclone aussi très meurtrier. Alors, je pense, parce que c'était très peu détaillé, donc je pense qu'il faut entendre ça comme toute une série de mesures, d'ailleurs limitées dans le temps, ça sera 5 ans, qui vise fondamentalement à remettre l'économie à flot et en faisant comme une pause sur un certain nombre de points, et notamment sur le point de la fiscalité, sans doute aussi au niveau des droits de douane pour justement faciliter cette reconstruction.
Et pour nous aider à bien comprendre, François Bost, il faut aussi dire que Mayotte est, depuis 2019, une zone franche d'activité nouvelle génération. Alors là, quelle différence ?
Je pense que, justement parce qu'on n'a pas encore le détail, hein, je pense qu'on ira encore plus loin que ce qui a été pensé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la France n'a qu'un très petit rapport avec l'univers des zones franches. Et d'ailleurs, d'un point de vue économique, c'est un sujet qui n'est quasiment pas abordé, sérieusement, on va dire, que par quelques chercheurs qui sont aventurés comme moi sur ce sujet. On n'est pas un pays de zone franche. Mais d'ailleurs, d'une manière générale, les pays développés le sont fort peu, alors qu'il y a un passé très riche en la matière. On sait qu'il n'y a pas si longtemps, on a demandé à la zone franche de Hambourg de fermer, alors qu'elle a existé depuis plus de 1000 ans. Donc il y a un passé glorieux aussi, mais qui ne s'est pas suivi dans l'époque contemporaine.
On va voir de quels détails et de quelles aventures voilà, il est question dans ce passé glorieux. Vous l'avez dit, la France n'est pas vraiment un pays de zone franche, mais tout de même pour compléter ce premier aperçu de ce qu'est une zone franche dans toutes les acceptions du terme aujourd'hui, il faut signaler qu'on en compte une petite centaine quand même en France, connue sous un nom plus spécifique, celui de zone franche urbaine. Vous avez commencé à nous le dire, François Bost. En 1997, c'est l'installation d'une boulangerie à Champigny-sur-Marne qui incarnait ces mesures d'exception.
Et l'on reparle des zones franches, ces petits paradis fiscaux installés dans les quartiers difficiles. Zéro impôt, zéro charge. Le gouvernement espère ainsi relancer l'emploi dans ces zones défavorisées. Les exonérations sont entrées en vigueur le 1er janvier dans les 9 zones franches de la région. Et le premier magasin vient d'ouvrir. Il s'agit d'une boulangerie à Champigny dans le Val-de-Marne. Frédéric Ovas et Pierre Yoven.
Champigny-sur-Marne, quartier Bois-l'Abbé. Une cité sensible créée à la fin des années 60, dont le centre commercial se meurt.
Déjà, il y avait donc à l'origine plus d'une quarantaine de commerçants, il n'en reste que 25. Ces commerçants ont disparu petit à petit, les clients ne venaient plus, donc ils ont fermé les uns après les autres.
Mais depuis quelques jours, l'espoir renaît au fin fond de la galerie marchande, avec Francisco, le boulanger. Portugais d'origine, il vit à Champigny depuis presque 35 ans.
Je suis venu ici sans penser à la zone franche. Je suis venu ici parce que je me suis décidé, parce qu'il n'y avait rien ici.
Exonération fiscale aidant, pas de taxes professionnelles, foncières, pas de charges sociales patronales. Il a investi 700 000 francs et embauché deux personnes et un apprenti, tous du quartier.
C'est surtout la fin du chômage, donc c'est un boulot, c'est un emploi stable. C'est un espoir, c'est la vie qui recommence, non ?
Au départ, ils m'ont dit que c'était un peu dangereux. Et moi, j'hésitais. Mais après, j'ai réfléchi. Et j'ai vu qu'il fallait venir. Quelqu'un, il fallait venir. Pour le relancer, il faut faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, il faut des hommes qui relancent les affaires. Alors, il y a moi, il y a d'autres qui vont venir. Maintenant, je crois que le centre est parti.
Un centre commercial qui, sur les traces de Francisco, devrait s'étoffer avec la venue dans plusieurs mois d'une supérette grâce à la zone franche.
Là encore, il y a l'idée qu'à situation spéciale, celle de la situation économique de Champigny-sur-Marne, et donc la dégradation assez avancée d'un tissu commercial, mesure spéciale, on l'entendait François Bost en tout début de ce reportage, cette initiative est qualifiée de petit paradis fiscal. Alors en quoi ces fameuses zones franches se distinguent justement des paradis fiscaux ?
Ça fait sourire, hein, évidemment. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas faire de confusion. Une zone franche, dans l'absolu, on verra ce qu'il faut entendre par le terme de zone franche, mais ça, en fait, ça n'a rien à voir avec les paradis fiscaux. Et d'ailleurs, il ne vous échappera pas que, autant on parle énormément des paradis fiscaux, eu égard à leurs effets, et notamment de déstabilisation sur l'économie mondiale. D'ailleurs, depuis maintenant une vingtaine d'années, le dossier est pris en main par des institutions comme l'OCDE, comme l'Union européenne, etc. Alors que les zones franches, on n'en parle quasiment pas. Il y a très peu de bibliographies sur le sujet, peu de chercheurs, comme je vous le disais, qui travaillent sur ce thème. Elles sont comme invisibilisées et pour autant, à l'échelle mondiale, elles jouent un rôle absolument phénoménal dans le contexte de mondialisation, sachant que plus de la moitié des produits que nous consommons et qui proviennent d'exportation, donc des biens manufacturés, sont produits dans des zones franches.
Et François Bost, il y a une autre nuance qu'il faut faire avec notamment cette idée d'une boulangerie à Champigny-sur-Marne. C'est tout de même l'idée d'un certain petit espace, mais très intégré, avec des résidents, avec une vie économique et sociale
absolument
tout autour. C'est pas forcément la représentation qu'on en a de ces petits espaces très, très enclavés, très contrôlés, voire quasiment emmurés, finalement.
Absolument. En fait, l'idée qui présidait lors de la création du régime de zone franche en France, c'était pas du tout d'insérer des territoires dans, et des entreprises dans la mondialisation, dans les échanges internationaux. Il s'agissait tout simplement de revivifier des territoires qui étaient en crise, qui perdaient de la population, qui perdaient de leur commerce. Et effectivement, quand on fait le bilan de ces zones franches urbaines, elles ont été pensées sur le modèle d'ailleurs britannique, il n'est pas si mauvais. Et on voit que finalement beaucoup de commerces ont pu perdurer. Alors c'est sûr que quand les villes se sont un petit peu plus gentrifiées, on va dire, parce que ça a été le cas pour certaines d'entre elles, ça a amené une autre clientèle et quelque part l'aide n'avait plus beaucoup de sens et pour autant elle reste importante pour ces territoires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle par exemple très peu de ces zones franches urbaines. On en parlait si elles ne marcheraient pas. Si elles ne marchaient pas, ça c'est clair.
Elles ont eu une distorsion de concurrence.
Tout à fait. Alors, c'est très local. Et comme vous l'avez, votre reportage était très bien choisi. Et on voyait bien que c'était à l'échelle de quartier, parce que ça concerne non seulement les commerces, mais c'était aussi les petits services de proximité. C'était également de l'artisanat. On n'est pas du tout à l'échelle industrielle. Donc, en termes de concurrence, elle était quand même extrêmement localisée.
Guillaume Calafa, on voit là deux modalités, on va dire, de zones franches qui se dessinent par le territoire et par la façon dont elles sont enclavées ou non. Or, vous avez étudié cette question et notamment via, entre autres, votre thèse « Une mer jalousée, juridiction maritime, port franc et régulation du commerce en Méditerranée 1590-1740 ». Mais en fait, ce qu'on retrouve très tôt, finalement, d'un point de vue historique, c'est qu'il y a déjà cette différence entre zones franches tournées vers la mer, on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais aussi ces zones franches à l'intérieur des terres.
Ah oui, ça, c'est un point qui renvoie à une histoire très longue, plus généralement des franchises douanières, des franchises fiscales, mais aussi de l'idée de zones franches à l'intérieur des villes. Paris avait même ses espaces francs, le Temple, le marché Saint-Germain, des zones comme ça, où en fait on échappait en partie à la fiscalité ordinaire et générale. Et en effet, ça c'est un point important, je pense qu'on va discuter de différentes façons, mais l'idée de franchise est en fait une manière de territorialiser l'économie, et cette territorialisation, elle peut avoir différentes échelles. À l'échelle d'un même territoire urbain, il peut y avoir un maillage fiscal, douanier différent.
Sauf que, on s'en doute, Guillaume Calafa, qui dit commerce et faciliter aussi ce commerce via des mesures fiscales appropriées, ou en tout cas qui semblent propices à générer, on va dire, une forme d'échange, on s'en doute c'est plutôt tourné vers la mer, et en tout cas vers le point de proximité le plus proche de ces échanges-là. Et c'est là qu'on retrouve l'exemple de Mayotte aussi. On a pu dire qu'il s'agissait là de reprendre le modèle de ce qui avait été expérimenté en Corse, qui s'était vu accorder le statut de zone franche, elle aussi pour 5 ans, à partir du 1er janvier 1997. Or, la Corse est une île, tout comme Mayotte. Guillaume Calafa, dans quelle mesure l'insularité et le fait d'être tourné vers la mer justifie aussi la mise en place de ces zones franches? Quel lien peut-on faire finalement entre histoire commerciale maritime et instauration de ces zones franches?
Alors ça, c'est vrai que c'est un point qui amène à peut-être deux réalités. D'une part, la question du développement économique des îles, qui est un point spécifique et qui va parfois entraîner justement des volontés de dynamisation économique par des statuts douaniers, fiscaux spécifiques. Et ça renvoie à un point qu'on a pu entendre, y compris dans la déclaration sur Mayotte au début par Manuel Valls, l'idée qu'il y avait effectivement une croissance économique qu'on pouvait espérer, un développement économique de la franchise, indexé sur un temps limité aussi. Ça, c'est un autre aspect qu'on reverra. Ensuite, il y a évidemment l'idée que la zone franche peut transformer un espace économique en entrepôt du commerce et, en fait, le mettre sur la carte des flux commerciaux. Et pour ça, effectivement, les îles peuvent devenir des escales décisives de ce commerce international et de ces flux de la navigation et du stockage, en fait, des marchandises.
Vous l'avez dit, Guillaume Calafa, et on va peut-être s'appuyer sur cette première définition avant de rentrer dans le détail, mais finalement, avec la zone franche, c'est cette idée d'échapper à la fiscalité ordinaire. Très concrètement, quand est-ce que cette idée émerge là? Quand est-ce qu'on prend conscience que oui, peut-être, ce serait une bonne stratégie pour attirer capitaux et marchandises?
Alors, c'est vrai qu'on va évoquer plusieurs ingrédients possibles. En l'occurrence, on remonte d'ordinaire, historiquement, à l'Antiquité, aux emporia, aux escales, à ce que Karl Polanyi appelait les ports of trade, bien souvent, pour les ports de commerce, pour faire une histoire longue de ces enclaves qui échapperaient à un régime ordinaire du commerce, de la douane, en fait, peut-être plus que de la fiscalité au départ. Et ensuite, effectivement, sur place, des mesures fiscales pouvaient être adaptées. Le Moyen-Âge a connu aussi des franchises portuaires et les a expérimentées avec des abaissements de barrières douanières pour attirer les négociants, attirer les stocks, essayer de les capturer aussi. Et c'est une stratégie qu'on va également voir mise en place à l'époque moderne et à l'époque contemporaine, avec l'idée évidemment de concurrence des places, puis de concurrence des États.
Oui, on va voir qu'il y a une forme de course à l'échalote, en tout cas de surenchère peut-être aussi au niveau de ces législations spécifiques que sont les zones franches. François Bost, vous l'avez dit, ce sont des objets qui sont relativement peu étudiés, où règne un certain flou. Est-ce qu'on peut tout de même s'accorder sur un plus petit dénominateur commun, on va dire, qui nous permettrait d'arriver à cette définition de ce que serait une zone franche à travers les mesures qui sont mises en place?
Oui, c'est tout à fait possible aujourd'hui. J'ai envie de dire qu'il y a un aspect normatif qui est apparu ces dernières années pour un peu clarifier, sachant que c'est un phénomène qui a connu une ampleur tout à fait extraordinaire à la faveur de la mondialisation. C'est à géométrie variable en fonction des continents, hein, on va le voir. Alors, on peut s'entendre sur une définition de base, hein. On va dire que le petit dénominateur commun, c'est quoi? C'est un territoire d'une superficie très variable, ça peut être quelques dizaines d'hectares, ça peut aller jusqu'à des centaines de kilomètres dans le cadre carré, dans le cadre de la Chine, par exemple, avec les Special Economic Zones, mais ça peut être encore plus vaste, hein, si c'est tout un territoire comme, par exemple, l'île Maurice a le statut de zone franche. Alors, en fait, le dénominateur commun, c'est évidemment de contourner c'est un régime dérogatoire, hein, de contourner la fiscalité au départ, parce que on se polarise souvent sur la fiscalité, mais on se rend compte que aujourd'hui, ce n'est plus un élément discriminant dans la mesure où il y a eu des normalisations, il y a eu des effets de l'Organisation mondiale du commerce, justement pour les distorsions de concurrence, ce qui fait que dans la plupart des pays du monde qui comptaient des zones franches, la fiscalité n'est plus du tout à l'ordre du jour. Par contre, ce sont les avantages restent au niveau des droits de douane, à l'entrée et à la sortie. Et justement, parce qu'on avait perdu un avantage, qui est celui de la fiscalité, c'était en fait pour faire venir des entreprises étrangères en particulier, eh bien on a trouvé d'autres façons pour renforcer l'attractivité, qui sont, faut pas l'oublier, la plupart d'entre elles sont à 81 ou 82%, elles sont dans le monde en développement. On a des contextes économiques très différents, des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'accessibilité, et on a besoin de rassurer les investisseurs qui vont trouver un environnement très propice qui rappelle l'Occident, hein, en termes de niveau de performance, à travers les facilités qui sont données sur le plan administratif. Donc ceci explique qu'elles aient rencontré un succès et qu'elles n'ont pas périclité avec la perte de l'avantage de la fiscalité.
François Bass, si je vous comprends bien, ce que vous avez évoqué, notamment une forme d'harmonisation fiscale, notamment via les règles de l'OMC, on pourrait aussi parler de cette taxe de 15%, hein, qui a été mise en place dans le cadre de concertations multinationales, enfin à l'échelle mondiale. Est-ce qu'on peut de fait se dire, alors sans revenir sur l'idée d'une évasion fiscale ou d'un paradis fiscal quelconque, mais on pourrait quand même se dire que c'est une façon de créer des poches d'attractivité qui s'émancipent tout de même de ce cadre plus commun.
Absolument, ça veut dire que pendant longtemps, on voyait bien qu'il y avait des régimes dérogatoires au régime commun, et évidemment, ils étaient montrés du doigt, justement, par ces avantages. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une relative uniformisation au niveau des États, de façon justement limiter les rivalités, on va dire, même fratricides, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'Europe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on, notamment dans le cadre de l'euro, on ne dévalue plus entre pays. Je me souviens de la rivalité entre la France et l'Italie. Quand l'Italie dévaluait, eh bien, sa monnaie, immédiatement, ça se répercutait avec des milliers d'emplois qui étaient perdus. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est un point important. Mais par contre, l'avantage de la fiscalité, il demeure pour les PMA, les pays les moins avancés, parce qu'on estime qu'ils partent de tellement loin qu'il faut encore leur donner une chance. Et comme ils pèsent très peu dans l'économie mondiale, on peut difficilement dire qu'ils vont concurrencer fortement les autres pays.
François Bost, vous avez parlé du contexte plus global qui est celui de la mondialisation, qui voit aussi ces zones devenir une forme, non pas forcément de norme, mais en tout cas de recours assez commun. Guillaume Calafat, là, on peut faire aussi une forme de parallèle historique. Vous nous avez parlé de l'émergence, on va dire, de ce concept-là dans l'Antiquité, mais le moment où ça se formalise vraiment, où ça devient, où ces zones franches deviennent un objet de réflexion aussi en termes de politique publique. C'est plutôt à travers cet exemple des ports francs, on va revenir dessus, mais ça devient une véritable institution en soi, plutôt au tournant du XVIIe, XVIIIe siècle. Et là aussi, le contexte presque théorique, en termes de théorie d'histoire de la pensée économique, joue énormément. Alors ce n'est pas encore, ou en tout cas pas en tant que tel, la mondialisation, c'est un autre contexte, mais qui voit tout de même les échanges s'intensifier durablement.
Oui, en effet, c'est quand même une forme de première globalisation. Oui. Et par ailleurs, et en effet, si le Moyen-Âge a connu des franchises douanières, cette réalité qui émerge à partir du XVIe siècle, c'est précisément une puissance action des États sur des politiques fiscales et douanières territorialisées. On territorialise le privilège. Et on territorialise, en effet, des poches, et je pense une métaphore assez efficace, qui vise à la fois à attirer des négociants, la population, le commerce, les marchandises, etc. Et c'est dans ce contexte-là, en effet, qui n'est pas si différent, on pourra y revenir, de certaines formes de néo-mercantilisme, eh bien que émerge cette idée de franchise territorialisée, localisée.
Et on va le voir, ce caractère très local fait aussi qu'il est compliqué de définir, ou en tout cas de donner un chapeau commun à tous ces ports francs, ces zones franches qui émergent. Certains s'y sont tout de même essayés, parce qu'il fallait bien le faire. C'est notamment le cas des frères Jacques et Louis-Philémon Savary des Brûlons, les frères Savary, pour faire plus simple. Ils tentent donc l'exercice dans leur dictionnaire universel de commerce publié entre 1723 et 1730 au gré des rééditions et des modifications.
Port franc, en termes de commerce de mer, c'est un port où il est libre à tous les marchands de quelque nation qu'ils soient de décharger leurs marchandises et de les en retirer lorsqu'ils ne les ont pu vendre, sans payer aucun droit d'entrée ni de sortie. Les marchands jouissent de cette franchise dans le port de Gênes. Il y a même assez près du port un vaste bâtiment qu'on appelle Porto Franco, à cause de la liberté dont les marchandises y jouissent et où il se trouve des magasins grands et commodes pour les y mettre en dépôt. Depuis que l'empereur, en conséquence des traités d'Utrecht et de Rastatt, est resté en possession des États d'Italie qui appartenaient à la maison d'Autriche espagnole, il semble s'être déterminé à établir un semblable port franc dans quelqu'une des villes qu'il possède sur la mer Adriatique. Port franc se dit aussi de la franchise totale et de l'exemption qu'ont les marchands de tout droit, soit pour les marchandises qu'ils apportent dans les ports de quelque État, soit pour celles du cru du pays qu'ils en veulent remporter. Tel fut le privilège des Anglais pendant plusieurs années, après qu'ils eurent découvert le port d'Archangel.
Guillaume Calafa, on entend parler là de port franc, de Porto Franco. Est-ce que c'est l'équivalent de la zone franche actuelle? Est-ce qu'on pourrait faire ce parallèle?
Ça en est une matrice absolument fondamentale, en effet. Et port franc est vraiment une expression qu'on voit fleurir au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et l'article des frères Savary, hein, dont le dictionnaire est vraiment un des outils de la pensée économique au XVIIIe siècle les plus importants qui soient. Eh bien, cet article port franc a été très lu, très commenté par les économistes encore au XIXe siècle. Et en effet, on voit une matrice longue de cette idée de zone franche à travers cette expression port franc.
C'est vrai que cet article, il ne se contente pas de définir, de donner finalement plusieurs acceptions du terme. Il nous raconte aussi quelque chose du contexte dans lequel il est écrit. Et en fait, c'est peut-être ça un premier facteur d'explication aussi de ce que sont ces fameux ports francs ou zones franches. C'est la façon dont le contexte historique se saisit du terme et la façon dont le droit aussi se construit à cette époque-là pour encadrer justement le commerce maritime. C'est un moment, on l'a dit, où la concurrence entre nations se renforce parce que aussi les monopoles sur les espaces maritimes qui prévalaient jusqu'ici se desserrent. La définition des frères Savary, elle s'inscrit dans un contexte bien particulier. Guillaume Calafa, c'est un moment où l'Adriatique notamment est libérée du monopole de Venise en 1718. Et alors, je le disais, ce dictionnaire, il est rédigé un petit peu avant, mais il est publié en 1723 puis jusqu'en 1730. Donc il y a cette Adriatique qui n'est plus l'objet juridique d'une nation, de Venise en l'occurrence. Et tout ça est concrétisé par un traité à cette époque-là. L'idée, c'est que maintenant, tout le monde peut circuler, mais on essaye de faire en sorte que Venise reste attractive. C'est aussi dans ce contexte-là que ça s'inscrit.
Alors, en effet, dans l'exemple qu'on a pu entendre, les frères Savary mentionnent le port de Trieste, qui appartient à l'Autriche, et qui est déclaré franc en 1719, sur le modèle d'un autre port, sur la façade tyrrhénienne, qui est celui de Livourne, en Toscane. Et Trieste va concurrencer Venise, qui concurrence elle-même Ancône, Rennes, qui concurrence d'autres ports adriatiques, Spalato, Split actuel. Et en effet, les ports francs s'inscrivent dans une concurrence des États pour essayer d'attirer les flux, la navigation et les marchandises. Donc l'acception là qu'on a entendue, la définition des frères Savary, elle participe vraiment de ce contexte des concurrences entre États, des concurrences mercantilistes.
François Bost, on va tenter de faire le parallèle avec aujourd'hui, mais finalement ce contexte où il y a à la fois des liens juridiques qui se desserrent, les États n'ont plus le monopole d'une partie de la mer, donc tout le monde peut y circuler parce qu'on voit un avantage aussi dans ce doux commerce, mais en contrepartie on essaie de resserrer ou en tout cas de construire le droit différemment pour attirer. On a un peu l'impression que c'est du commerce qui se veut plutôt supporter de la carotte plus que du bâton. Finalement, c'est aussi un peu ce contexte-là pour la mondialisation. On croit aux vertus, on va dire, du doux commerce, à condition qu'il y ait des règles juridiques qui permettent à chacun de trouver sa place.
Tout à fait. Alors, le fait qu'elles aient vraiment explosé à la faveur de la mondialisation, contemporaine, globalement, c'est le début des années 1980, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans le contexte, d'abord, de libre-échange, ça c'est une première chose. La mondialisation, c'est d'abord du commerce, et on va dire que le produit emblématique, c'est le conteneur. Ce qui me frappe, c'est de voir des livres qui sortent sur la mondialisation, qui oublient complètement cette dimension et qui passent à côté. Et on l'a bien vu à la faveur de la Covid-19, la fermeture du monde, parce que tout simplement, il n'y avait plus de porte-conteneurs qui circulaient à l'échelle planétaire. Donc, oui, c'est le libre-échange, c'est le néolibéralisme, il faut être très clair, parce que ça s'inscrit quand même dans cette lignée. Et on voit que, à la faveur notamment de la fin de la bipolarisation, c'est-à-dire l'effondrement de l'URSS, l'ouverture de nouveaux pays aux échanges internationaux, tous les pays se sont positionnés d'une manière ou d'une autre par rapport aux zones franches, soit en refusant, pour de très rares pays, soit au contraire en les mettant en avant. Et ça, c'est tout à fait singulier de voir que c'est comme un baromètre du rapport que les pays tissent avec la mondialisation.
Mais est-ce qu'il y a bien cette idée de ne pas vouloir imposer trop de contraintes, encore une fois, juridiques? Est-ce qu'il y a bien cette idée de, dans le jeu de la mondialisation, on a compris qu'on ne pouvait pas se permettre d'être encore une fois, une force de contraintes et d'être trop restrictif, on va dire, et que donc c'est vraiment l'idée de provoquer une forme d'adhésion, en tout cas d'inciter plus que de contraindre qui émerge à ce moment-là?
Certainement. D'autant plus que si vous prenez du retard, eh bien c'est très difficile de rattraper ce retard. Et on le voit aujourd'hui, les pays qui se mettent depuis quelques années, qui ont légiféré avec des régimes de zones franches, des codes des investissements, ils ont beaucoup de mal, évidemment, parce que j'ai envie de dire que les meilleures places, elles sont prises. Et ça se construit sur le temps long, c'est de la confiance, ce sont des infrastructures absolument gigantesques. Donc les ports francs, c'est une catégorie de zones franches, on les appelle les zones franches commerciales, et j'ai été ravi d'entendre et de commencer à lire les travaux de mon collègue que je ne connaissais pas. Je veux dire que ça permet de combler un vide très important. Ça avait très peu de choses sur les zones franches par le passé. Et on voit qu'en fait, c'est les mêmes causes qui proposent les mêmes effets. Dans la mesure où on avait besoin de ports francs lorsque la Méditerranée, et notamment à la faveur, pour reprendre des analyses brodéliennes, on était dans l'économie monde de la Méditerranée, et on voit qu'aujourd'hui, on a énormément besoin de ces ports francs, alors qu'aujourd'hui, je citerai par exemple les noms de Jebel Ali aux Émirats Arabes Unis que j'ai visité, mais c'est quelque chose d'absolument gigantesque. C'est gigantesque. En fait, faut le voir aujourd'hui comme des hubs de transbordement, c'est-à-dire que les marchandises arrivent, elles sont ensuite éclatées dans le cadre de l'intermodalité, elles vont prendre d'autres porte-conteneurs, elles vont prendre l'avion, elles vont aller un peu plus loin sur des barges, ça va être potentiellement aussi sur des trains, sur des camions. Donc c'est un lieu de facilitation tout à fait extraordinaire. Et les pays qui cherchent justement à se trouver une vocation en tant que pays autour duquel tout s'organise, je pense à Singapour par exemple, ou à Hong Kong, enfin, en tant que, lorsqu'elle était encore région autonome de la Chine, c'est vraiment ce qui en fait, on se trouvait une vocation. La vocation est un hub intermodal avec une vocation planétaire. Parce que là, on est sur des zones franches qui ont une vocation planétaire.
Guillaume Calafa, sur cette question de l'organisation de ces zones en tant que telle.
Oui, ce qu'on entend très bien, et on l'entendait aussi dans la définition des frères Savary, c'est que le port franc et la zone franche est bien souvent pensé comme un immense entrepôt. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut se l'imaginer aussi. L'exemple du Porto Franco de Gênes, c'est un lieu dans la ville qui est justement à ses portes-conteneurs, où on vient justement charger et décharger des marchandises, où on peut les entreposer pour une durée assez longue, entre 1 et 2 ans, sans qu'ils paient de droits de douane, et donc on peut venir venir les charger, les décharger. C'est la même chose à Arkhangelsk, en mer Blanche, donc en Russie, qui est aussi évoqué dans l'exemple des frères Savary. Et à chaque fois, ce qui est assez intéressant, c'est que à la fois, on construit très matériellement un entrepôt avec ces conteneurs, ou ces balles, comme on disait au XVIIe ou XVIIIe siècle, et ensuite, on trace aussi une juridiction qui va avec, justement, des espaces après ou avant lesquels eh bien, on paie une douane ou on ne la paie pas. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le port franc trace aussi des limites juridictionnelles dans un commerce qui est celui du commerce global, et ce, dès le XVIIe et XVIIIe siècle.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites aussi, et qu'on comprend, c'est que finalement, ces tracés-là, cette organisation-là, elle est propre à chaque territoire en fonction aussi de ses intérêts. Vous l'avez dit, la définition qu'on vient d'entendre des frères Savary, elle a été beaucoup commentée, et notamment par deux juristes, Giuseppe Francesco Pirallini et Giovanni Giacomo Baldasseroni, qui sont tous deux chargés aussi de définir ce qu'est un porto franco. Alors eux disent des choses un petit peu différentes. Ils disent que, alors certes, on trouve de nombreux ports francs en Méditerranée, à Marseille, Villefranche, Gênes, Ancône, Messine ou Livourne, mais que aucun n'est régi par les mêmes règles ou par des lois identiques, et surtout que la définition des Savary, qui est très large et puis qui est vraiment le symbole d'une très large libéralité aussi, n'existe pas vraiment. Qu'en fait, l'idée de zéro impôt, zéro frais de douane, aucune barrière, ce n'est pas vraiment la règle à cette époque-là.
Non, en effet, en fait, chaque port franc est aussi le produit des lois du souverain qui l'a édicté, avec eh bien, des restrictions, des limites, des concurrences aussi, qui sont des concurrences de voisinage. Dans les ports que vous avez cités, Marseille, Nice, Villefranche, Gênes, Livourne, ils sont les uns les autres à quelques centaines de kilomètres, ils sont très près. Et le but pour ces ports, qui sont voisins, c'est d'attirer le commerce global. Donc d'être plus avantageux du point de vue douanier et fiscal que le port voisin. Mais parfois, ils sont adossés à des états ou à des groupes marchands qui ne veulent pas du tout qu'on attire des marchands rivaux sur place. Donc évidemment, chaque loi, très localement, va être différente. Et les ingrédients de ce qu'on appelle port franc varient grandement en fonction des places, malgré cette définition un peu générale que donnent les Savary.
C'est intéressant cette idée de concurrence, parce qu'elle n'est pas seulement entre marchands locaux, on va dire, et puis les marchands étrangers à qui on offrirait des conditions particulièrement arrangeantes. Le cas de Marseille, il nous raconte beaucoup de choses aussi, parce qu'il a été inclus dans ce dictionnaire, ensuite il en a été radié, et puis il y a eu une très forte conflictualité aussi entre l'État, vous l'avez dit, l'État qui est souverain, qui cherche à former, à tracer cette zone-là, et la Chambre de commerce de Marseille, parce que là, les commerçants de Marseille vont se dire non, en fait, c'est tout simplement de la concurrence déloyale. Là, on y est, Guillaume Calafa.
Alors, en fait, l'histoire de Marseille est absolument passionnante, parce qu'en 769, en effet, le port est l'objet d'un édit d'affranchissement de la part de Louis XIV et de Colbert, qui transforme Marseille en port franc, qui est censé attirer le commerce, attirer les négociants étrangers. Mais il y a des négociants à Marseille qui sont très puissants et qui n'ont pas du tout envie de voir des armateurs ou des négociants étrangers les concurrencer sur place. Et donc, peu à peu, un certain nombre de mesures fiscales vont en fait réserver aux seuls négociants marseillais les avantages douaniers et fiscaux du port de Marseille. Et donc, si par exemple quelques négociants juifs s'installent dans les années 1670 à Marseille, ils en sont expulsés en 1682, créant aussi une forme d'instabilité institutionnelle qui ne crée pas le climat de confiance qu'un port franc est censé susciter. Donc Marseille est considéré par les observateurs contemporains comme un port franc amputé de ses propres franchises. On voit là une rivalité entre la décision souveraine royale qui cherche à faire de Marseille un grand port international ouvert aux négociants et le climat local plus hostile aussi à ses concurrences. Marseille est un port aussi qui a une très longue histoire de franchise et aussi des négociants sur place, qui est très différent de ports des villes nouvelles, par exemple, qui, elles, n'ont pas ces négociants locaux et donc qui, par définition, sont très enclines à accepter l'arrivée et l'immigration de nouveaux acteurs et opérateurs économiques.
Oui, qui sont tout entières tournées autour de ces zones-là, qui sont quasiment créées aussi pour s'inscrire dans ce commerce maritime de plus en plus mondialisé. On le voit, c'est compliqué de se mettre d'accord sur une définition, sur un modèle. Il n'en existe pas vraiment. Depuis François Bosse, les choses ont un peu évolué. En 2019, 160 pays sur un total de 192 avaient légiféré en faveur des zones franches. Ça représente 83% de l'ensemble. Est-ce qu'on peut parler pour autant d'un modèle universel de la zone franche ?
Alors, c'était tout le travail d'un groupe de travail que j'ai dirigé dans le cadre de la CNUSED.
La Conférence des Nations Unies pour
absolument,
le commerce et le
développement. Absolument, et donc c'est dans le gros rapport de la CNUSED qui s'appelle World Investment Report de 2019, qui était consacré aux Special Economic Zones. Et ce qui a été fascinant dans ce travail, c'est que bon, j'ai pu apporter toute ma base de données, mais ils ont repris également toutes mes terminologies, ce que j'ai trouvé ça intéressant. Et effectivement, c'était le besoin d'apporter une norme. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a un maquis incroyable au niveau de ne serait-ce que des terminologies. Le terme de free zones, qui serait le terme le plus commun, si vous voulez, en fait, n'est employé que dans à peine un tiers des pays. En fait, chaque pays a sa dénomination. Et en plus, chaque pays, à travers ce qu'on appelle un code des investissements, distille les secteurs qui sont ouverts ou pas, les avantages qui sont proposés, etc. Et c'est extraordinairement variable. Ce qui fait que, souvent, j'ai participé, notamment dans les travaux de la World Free Zone Organization. J'ai participé à son lancement, qui est le grand regroupement mondial des zones franches. J'étais leur académique experte, en quelque sorte. Et j'ai vu à cette occasion des dizaines et des dizaines de représentants de zones franches qui se découvraient, qui se questionnaient également sur les avantages des uns et des autres. Donc il y a un maquis déjà terminologique, mais c'est aussi un maquis sur le plan des avantages qui sont proposés. Donc en fait, il faut faire un peu de ménage. Mais les termes les plus communs qu'on va trouver, c'est « export processing zones », donc pour les zones franches, industrielles, celles qui ont vraiment une vocation industrielle, ce qui n'est pas le cas des ports francs. Les ports francs, c'est une vocation commerciale, très liée évidemment au commerce mondial. Là, on est vraiment sur l'aspect manufacturier. On va avoir les free trade zones, qui sont des zones franches commerciales. Et puis, on a décliné aussi, ça c'est un point à ne pas oublier, on a ce que moi j'appelle, et je traduis sous le nom de points francs, c'est-à-dire des avantages qui sont donnés à des entreprises, mais qui sont libres de s'implanter où elles veulent. Et en fait, c'est plutôt connu, mais sous un autre nom, parce que c'est né au Mexique, ce sont les fameuses maquiladoras.
Mais qui ne se comptent pas avec les zones franches urbaines.
Alors, non, ça n'a rien à voir. Oui. Ce sont vraiment notamment des entreprises industrielles qui jouent un rôle très important et qui sont aujourd'hui très effarouchées par toutes les mesures de Trump à l'égard du Mexique. Et elles travaillent dans les produits blancs, elles travaillent dans les médicaments, elles travaillent dans les pièces automobiles, même dans la construction automobile. Et elles sont là, de l'autre côté de la frontière avec les États-Unis. Et en fait, elles approvisionnent le marché américain ou le marché canadien. Voilà. Donc, ça, c'est les trois grandes modalités. Néanmoins, et ce qui m'a intéressé, c'est qu'on voit que la CNUSED va beaucoup plus loin parce qu'elle dénomme aussi, sous un ensemble plus vaste qu'elle a appelé Special Economic Zones, toute une série de zones qui ont à la fois des avantages approchants et différenciants. Et donc, on a en fait deux fois plus de zones franches, on va dire, à travers le monde, mais avec des avantages qui sont souvent moindres. Mais néanmoins, tout ceci est fait pour quand même attirer et être attractif.
France Culture.
Il est marchandise, pas d'avarie ?
Non, pas d'avarie. Voici les bordereaux. J'ai refait l'inventaire, tout est en bon état.
Entrez.
Monsieur Dantès, il y a vos trois pères sur le pont avec une dame.
Entendez-vous l'écho ?
Je ramène en voiture.
Mais il y a des tas de choses à régler à bord. La douane et les...
Cadros s'occupera de la douane.
Les passes avant.
Pour une fois, ils passeront après. Et puis, c'est un ordre. Allons, en route.
Aliatovine.
Voilà un petit extrait du film consacré au comte de Monte Cristo, mais la version de 1954. Guillaume Calafa, on l'a vu, il y a une énorme diversité de définitions possibles, d'avantages accordés en fonction des intérêts finalement des nations qui mettent en place ces fameuses zones franches. Peut-être qu'on peut en arriver au point commun tout de même, et c'est ce qu'on a entendu, notamment autour de cette réunion de la CNUSED qui vise à faire le ménage, vous l'avez dit vous-même, François Bost. Et on retrouve cet exemple aussi dans l'histoire, Guillaume Calafa, et notamment à travers l'exemple de Livourne. Il y a une sorte de ménage qui est fait dans les règles en vigueur, qui est entrepris en 1565, donc là un peu avant la période qui nous intéresse. Mais le but est de mettre fin aux abus et à la confusion des normes en vigueur. C'est vrai à Livourne, mais c'est vrai partout. En fait, c'est des zones franches, elles servent aussi parce qu'elles offrent de la visibilité. Ça, c'est extrêmement important pour les marchands.
Absolument. En fait, port franc, avant zone franche, c'est vraiment un label publicitaire. Ça veut dire, venez vous installer chez nous, à la fois parce que vous y commercierez librement et facilement. Et par ailleurs, vous pourrez aussi produire. Ça, c'est un point important aussi. Ces ports francs ont été pensés comme des zones industrielles industriel, bien souvent privilégié. C'est vraiment la définition que donne Pierralini Baldasseroni, que vous avez cité tout à l'heure, c'est vraiment l'idée d'un port privilégié, qui a obtenu tout un faisceau de privilèges. Et ensuite, effectivement, on peut décliner les critères de ces privilèges, les différents ingrédients qui font une franchise. Le premier qu'on a pu voir, c'est vraiment la douane. Ça, c'est l'abaissement des droits de douane, voire leur réduction totale pour un temps limité, etc. Donc là, pour attirer le commerce, capter les flux, créer une juridiction commerciale. Le deuxième, qui est tout à fait central également, c'est, à l'époque moderne, l'idée d'une tolérance religieuse, tolérance politique pour les marchands étrangers, qui signale en fait aux yeux des contemporains le fait que ce sera un lieu ouvert à toutes et tous, et en fait un espace qui ne bénéficiera pas qu'aux marchands du lieu. Donc pour ça, un port international. Et ça va de pair en fait l'idée d'une neutralité dans ces lieux, de neutralité, justement, on suspend les règles ordinaires, on permet à tous de commercer, est un autre point décisif pour comprendre que le port privilégié est un port qui a un environnement institutionnel favorable au commerce. Évidemment, c'est très difficile d'avoir tous ces ingrédients. Et on les voit, justement, négocier d'un port à l'autre et varier grandement.
Et la notion de négociation, elle est très importante parce qu'elle nous permet de comprendre aussi que c'est une forme de rapport de force. Les États, bon, certes, voient bien leur avantage économique, mais ne décide pas du jour au lendemain de le faire. Il y a aussi des remontées de terrain et puis des injonctions, on va dire, de différents corps de métier. Mais Guillaume Calafat, ça met tout de même une autre caractéristique commune à travers le temps et à travers l'espace de ces zones franches, c'est que c'est toujours l'État qui décide. C'est l'État qui décide de faire une sorte... C'est une décision de souveraineté.
En tout cas, c'est un acte de souveraineté et c'est ce qui différencie sans doute le port franc de l'époque moderne de ces avatars médiévaux des franchises portuaires urbaines. Enfin, là, il y a vraiment effectivement un geste politique qui vise à être une affirmation de souveraineté au sens où le souverain octroie un certain nombre de privilèges à un lieu, qui est une poche justement de juridiction privilégiée et spéciale dans ces territoires, et en même temps qu'il l'accorde, il peut aussi le retirer. Donc c'est quand même soumis aussi à une négociation qu'on appelle en fait dans l'économie politique du XVIe siècle, qu'on commence à appeler la raison d'État. C'est-à-dire que ce qui justifie ces franchises, c'est précisément le fait qu'on cherche à peupler et enrichir ces États, et donc on déroge à la règle commune, ce qui nécessite aussi un jeu diplomatique très important, puisque évidemment, un souverain qui octroie des privilèges à un groupe qui est stigmatisé quelque part doit justifier, disons, ses décisions.
François Bost, est-ce qu'on retrouve cette idée d'un État souverain qui s'affirme aussi à travers la création, le tracé de ces zones-là, et est-ce que c'est aussi source de conflictualité aujourd'hui ?
Alors naturellement, c'est l'État qui est derrière tout ça. Et en fait, ce que je retiens, c'est d'abord la traduction d'une stratégie dans le cadre de la mondialisation. Ce qui est frappant, par exemple, durant toute la période de la révolution industrielle, on n'a pas eu besoin de zones franches industrielles avec une vocation exportatrice, puisque c'est une préoccupation qui est arrivée beaucoup plus tardivement. Tout simplement parce qu'on était dans l'industrie lourde, pas besoin de zones franches, et ensuite parce que on était à proximité des bassins de main-d'œuvre, on n'avait aucune considération pour les pays en voie de développement, d'ailleurs qu'on n'appelait pas comme cela, on était dans le cadre des empires coloniaux, donc on se posait pas du tout la question des zones franches comme on se les posait avec l'avènement de la mondialisation. En fait, c'est à partir du moment où on a commencé à avoir les avantages différenciant d'un certain nombre de pays, notamment en termes de coût de main-d'œuvre, c'est-à-dire à partir des années 60, que on s'est dit bon bah on va appliquer les règles de la division internationale du travail et plus précisément ce qu'on appelle la division internationale des processus productifs. Donc c'est vraiment, il y a une coïncidence très forte entre les changements d'organisation de la production et surtout le fait que on peut saucissonner maintenant donc toutes les étapes de la production en leur affectant des lieux géographiques particuliers en fonction des avantages comparatifs des différentes régions du monde.
Donc on le comprend, c'est plutôt une politique sectorialisée. Reste à savoir quels sont les avantages attendus de telles mesures, mais aussi quels sont leurs coûts et évidemment leur efficacité. Alors si le contexte économique global, que ce soit le mercantilisme ou la mondialisation, explique beaucoup, ils ne font pas tout. Les ports francs sont aussi des zones, on l'a dit, où se nouent des rapports de force qui témoignent des contradictions internes à ces grands courants de la pensée économique. Pas sûr que ces rapports de force aient été très présents sur Mercantile ou Atterri Link, héros de la franchise Zelda dans l'opus Wind Waker, et où résonne en permanence cette petite musique. bien à l'écoute de France Culture. On s'affranchit de toutes les règles aujourd'hui puisque nous parlons des zones franches, notre mot de l'écho du jour. Et nous sommes toujours en compagnie du professeur de géographie économique et industrielle François Bost et du maître de conférences en histoire Guillaume Calafa. Guillaume Calafa, nous l'avons dit, il est compliqué de trouver une unité, une universalité parmi les ports, les zones franches aussi, telles qu'ils se mettent en place à l'époque moderne. On a vu qu'il y avait tout de même une caractéristique commune, celle de l'importance de la décision de l'État et cette idée de proposer un territoire législatif simple à comprendre ou en tout cas clarifié. Toute la question est de savoir à quoi correspond très précisément cette décision. On a commencé à le dire, c'est essentiellement des corporations marchandes, les marchands eux-mêmes, mais tout de même, Guillaume Calafa, il y a une forme de contradiction là. On pourrait se dire que des marchands, a fortiori étrangers, vous l'avez dit, des populations relativement stigmatisées à cette époque-là, qui parviennent à imposer leur volonté, ça interroge tout de même.
Alors, je ne sais pas s'ils parviennent à imposer leur volonté, mais en tout cas, il y a une négociation qui se noue effectivement avec des souverains à l'époque moderne pour attirer telle ou telle catégorie de population, puisqu'on associe bien souvent à l'époque moderne, au XVIIe et au XVIIIe siècle, des provenances à des compétences. Donc, par exemple, les Grecs sont d'excellents marins, les Bergamasques sont d'excellents portefaix, voilà ce genre de choses qui sont des ingrédients pour en fait composer un port, peupler une ville. Et on est vraiment à l'époque de Machiavel, Botero et des néo-mercantilistes plus tard, c'est-à-dire de ces penseurs de l'économie politique qui associent la grandeur des États et des villes à leur peuplement et à la richesse de leur peuplement et à la variété aussi potentielle de ces peuplements. Donc en fait, très tôt, avec l'idée de privilégier des ports, il y a l'idée d'attirer des populations et d'attirer des compétences. Et donc, dès le 16e siècle, un certain nombre de négociants, un certain nombre d'entrepreneurs, notamment du monde séfarade, je pense à un fameux marchand et entrepreneur de verre qui s'appelle Maguino di Gabriello, négocie avec le grand-duc de Toscane, Ferdinand Ier de Médicis, la possibilité d'avoir des règles favorables à l'installation des juifs séfarades à Livourne, dans le port de Livourne, le port toscan qui est en plein essor, mais qui ne fait qu'à peu près 500 habitants à la fin du XVIe siècle. Et
d'ailleurs, Guillaume Calafa, petite précision de vocabulaire, vous dites que dans les années 1590, donc cette toute fin du XVIe siècle, c'est alors une ville de franchise plus qu'un véritable port franc qui se met en place avec Ferdinand Ier. Donc c'est peut-être aussi une nuance à faire,
oui.
C'est peut-être moins institutionnalisé aussi.
C'est un ensemble de règles favorables à l'installation des marchands. Et donc de 1590 à 1595, Ferdinand promulgue un certain nombre de mesures dédiées pour que sa ville se peuple. En fait, un architecte a fait des plans, il espère qu'il va y avoir 14 000 habitants, il n'y en a que 500 en 1590, donc il faut attirer beaucoup de monde. Et attirer aussi des flux commerciaux et attirer des compétences bancaires, financières, marchandes, etc. Et en l'occurrence, Ferdinand cherche trouver des compétences dans ces marchands juifs séfarades qui, en fait, cherchent un port en Europe occidentale, qui sont soit en Afrique du Nord, soit dans l'Empire ottoman, à Izmir, à Istanbul, et qui cherchent des relais pour commercer avec l'Europe du Nord. Donc, cette conjoncture joue aussi un rôle important dans le développement du port. Et donc, Livourne, à partir de 1593, va être un port accueillant pour les marchands juifs séfarades, un port où ils peuvent revenir à leur foi lorsqu'ils se sont convertis au christianisme, ce qui est tout à fait inédit, et qui va servir de modèle de tolérance politique pour un grand nombre de ports en Méditerranée et en Europe occidentale. Donc il y a une histoire assez longue, si on veut, du lien entre tolérance religieuse, tolérance politique et développement de ces ports privilégiés dans un contexte qui est celui du mercantilisme, c'est-à-dire d'une concurrence exacerbée des États, dont on a aujourd'hui en fait une traduction néo-mercantiliste. On est dans un, comme le dit Arnaud Aurin, une sorte de capitalisme de la finitude, pour reprendre ces termes, un néo-mercantilisme où, précisément, on voit bien que attirer les flux, les capter et attirer les marchandises dans un monde fini fait partie voilà, du socle de l'économie politique contemporaine.
C'est le nerf de la guerre, pour reprendre aussi une expression en vogue. François Bost, est-ce que là encore on pourrait pas tirer un parallèle avec aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans quelle mesure ces zones-là, telles qu'elles sont conçues, elles consistent aussi à attirer des talents, des compétences dont a besoin un pays ? Et vous l'avez dit, notamment dans le cas des pays qui sont en voie de développement.
Alors, j'ai envie de dire que c'est un géométrie variable, parce que dans les domaines aujourd'hui qui sont les plus dynamiques en termes de zone franche, c'est la question industrielle. Donc ça permet aux pays qui adoptent un régime de zone franche, qui n'ont pas notamment de tradition industrielle, d'initier rapidement une stratégie en la matière qui leur permet de s'insérer dans les échanges. L'idée, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer de la richesse, hein, évidemment, en essayant d'attirer des investissements, évidemment des compétences qui viennent de firmes transnationales, parce qu'il faut quand même dire que ce qui explique aussi pourquoi elles ont poussé comme des champignons, fondamentalement, c'est par les délocalisations. On va dire que c'est les lieux d'accueil par excellence des délocalisations.
Dans un endroit où atterrir quand
absolument.
On a décidé de
délocaliser. Et on voit par exemple un pays comme la Chine ne serait pas la puissance économique qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu sa politique de zone franche qui se fait à travers les Special Economic Zones. C'est plus de 50% de l'export américain, chinois qui passe par ce biais-là. Donc à partir de 78, l'ouverture au capitalisme de l'économie chinoise se fait par les zones franches.
Alors justement, pour revenir sur ce moment clé, hein, que c'est cette année 78 et puis ce tout début des années 80 de façon générale, on comprend que c'est un modèle, ce modèle des zones franches qui séduit et qui séduit notamment Xi Jinping qui, en 2020, à l'occasion de la célébration des 40 ans justement de l'instauration de la spéciale Economic Zone de Shenzhen, s'exprimait dans ce discours.
Mesdames, messieurs, camarades, aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés solennellement pour célébrer le 40e anniversaire de la création de la zone économique spéciale de Shenzhen. La création de la zone économique spéciale constitue une grande initiative du pays et du parti pour promouvoir l'ouverture et l'édification du socialisme. En décembre 1978, la troisième session plénière du 11e comité central du parti a pris la décision historique de faire basculer notre priorité du travail vers l'édification économique. Nos dirigeants ont mobilisé le pays et le peuple multiethnique pour entamer un nouveau chemin vers le socialisme moderne.
Voilà, Xi Jinping en 2020, traduit ici par Paul Weinerter de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. François Bost, vous l'avez dit, le tournant c'est en 1978 pour la Chine. Pourtant, on pourrait se dire, au vu de tout ce qu'on vient de dire dans l'émission, que la Chine n'a pas eu vraiment de difficulté à s'insérer dans la mondialisation en cours. Quel intérêt, quel besoin voyait-elle dans ces zones économiques spéciales ?
Alors, faut se remettre dans le temps. Faut pas oublier la chape de plomb communiste. C'est un pays qui, pendant des décennies, plus de 70 ans, 75 ans, je crois, a tourné le dos à son passé maritime. C'est un pays qui s'est ruralisé, qui ne voulait pas entendre parler des grandes villes. Et l'avènement de Deng Xiaoping a changé la donne. Il vient de Shanghai, c'est un urbain, et il a conscience qu'il ne faut pas rater la marche du monde et qu'il faut tester. Donc, une forme d'ouverture, on parlait des villes ouvertes, c'était une façon de tester le capitalisme, mais à une échelle très petite, très fine, ce qui permettait en fait de tout fermer s'il y avait un débordement quelconque. Ça a été un énorme succès. À telle enseigne qu'il y en a eu plus d'une centaine hein, de ces grandes zones franches, mais elles sont gigantesques. Il faut voir que celle de Shenzhen, elle fait plus de 340 km². Elle a été installée juste en face de Hong Kong. C'était dans la perspective de la réunification, donc qui s'est opérée en août de mémoire 1997, au reste de la Chine. Et donc, en fait, faut voir que Shenzhen, au départ, c'était, alors on dit souvent un petit village, non, c'était une petite ville qui faisait à peine 20-30 000 habitants. Il y avait des riseries, il y avait une conserverie de poissons, enfin, c'était rien. Et c'est devenu la grande ville des technologies de la Chine. Et on voit que même des investisseurs taïwanais s'y sont implanté et tous les iPhones que nous avons dans nos poches sont fabriqués là-bas.
Ce qui pose une question, François Best, plus générale et qui va peut-être au-delà du seul cas de la Chine, mais on a commencé à le dire, ces zones franches, elles sont aussi destinées à attirer des compétences, des talents. Dans quelle mesure on arrive à mesurer justement le fait que ça dépasse cette enclave juste du port franc? Dans quelle mesure on peut comptabiliser ces retombées au-delà de la zone franche pour l'ensemble du pays?
Oui, ça peut se comptabiliser. Alors, vous avez bien employé le terme d'enclave parce que c'est effectivement ce qui se fait. Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Effectivement, c'est dans un cadre restreint qu'on peut tester énormément de choses. En fait, c'est sur un espace petit. On peut faire venir plus facilement des investisseurs. On est à proximité d'aéroports qui deviendront des aéroports internationaux, des ports qui sont des ports en eau profonde. Il y a toutes les infrastructures et elles ont, on va dire qu'en plus, elles sont situées sur un axe de communication maritime qui est majeur. Donc, en fait, elle partait sur de très bonnes bases. Alors, après, faire venir des compétences, c'est moins évident. Il faut vraiment qu'il y ait une stratégie de l'État qui vise notamment à ce que les produits qui sont fabriqués, un peu à la manière d'un escalier, sont à valeur ajoutée croissante. Il y a des pays qui n'ont pas été du tout dans cette optique et qui continuent de plafonner parce qu'ils sont dans le textile, par exemple, et d'autres qui, au contraire, ont commencé très modestement et aujourd'hui sont sur des produits à très très forte valeur ajoutée. Ce qui fait que le profil des employés, des travailleurs, des salariés a énormément évolué. Au départ, c'était des gens qui quittaient les rizières. Aujourd'hui, on a affaire à des super ingénieurs, à des gens vraiment très pointus, très bien formés. Et quelle évolution en seulement à peine 40 ans.
Guillaume Calafa, on l'a dit, ces ports francs participent d'un mouvement plus global, celui du mercantilisme ou néo-mercantilisme. Du reste, vous le dites, il y a une sorte de course de surenchère aussi dans ces années 1720-1750 à la rénovation ou à l'instauration d'un système de franchise. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une espèce de repli protectionniste ensuite? Est-ce que ces zones franches perdurent? Est-ce qu'il y a une de la même façon que le mercantilisme a été présenté comme un effet de mode, est-ce que cet effet de mode finit par passer?
En fait, d'une certaine façon, dans la mesure où la concurrence mène à une sorte de plafonnement justement des bannières douanières,
on peut aller plus loin que ce qu'on a déjà fait.
Et en revanche, ce qu'on voit effectivement, c'est que certaines villes croissent de façon considérable, donc Livourne, Trieste ou Odessa plus tard au 19e. C'est-à-dire, ce sont des villes qui, en fait, ont grandi grâce au port franc et qui se sont institués grâce à lui d'une certaine façon. Et ce que l'on voit en revanche au 18e et 19e siècle, c'est le port franc essaimé comme modèle à l'échelle globale avec des formes plus coloniales d'instauration de ces de ce type là de franchise. Donc d'une certaine manière, le port franc connaît des succès encore et au tournant du 19e 20e siècle, des historiens se penchent sur les franchises douanières du 15e, 16e, 17e, pour dire réinstaurons des ports francs dans un contexte de concurrence coloniale. Justement, ça va être un des outils du développement des pays colonisés.
François Bost, ce qui pose une question plus générale, finalement, c'est de savoir si ces ports francs ont accompagné, ont permis au pays de prendre en marche la mondialisation qui était alors en plein essor, ou si c'est au contraire ces ports francs qui ont participé à la mise en place de cette mondialisation. Est-ce que c'est un outil de rattrapage, au contraire un outil de construction de la mondialisation? Et je vous pose notamment la question dans le contexte des menaces ou des promesses selon de protectionnisme émises notamment par le président des États-Unis, Donald Trump.
Alors, c'est à la fois zone franche commerciale, donc les ports francs, mais aussi les zones franches industrielles, globalement. Je suis convaincu qu'elles ont joué un rôle important, majeur même, mais à géométrie variable pour autant. On sait que, d'après mes décomptes, il y en a 52% des zones franches dans le monde, quand je prends le terme dans un sens générique, qui se situent en Asie. Ça a été incontestablement l'un des leviers de l'explosion de l'Asie, notamment de l'Asie du Sud-Est, il faut être très clair. Ça marche moins bien en Afrique, voire très mal, ça marche pas si mal en Amérique latine. Donc on voit bien que c'est à géométrie variable. C'est le reflet des stratégies des États.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, François Bost et Guillaume Calafa, d'avoir participé à cette émission.
Merci.